Merci à tous ceux qui se joignent à nous. On va parler de gens qui sont seuls et trop souvent oubliés au cours de l'année, mais dans le temps des fêtes, on dirait qu'ils nous paraissent moins invisibles. C'est vrai que durant l'année, les itinérants, on dirait qu'on les voit pas. Surtout si vous habitez à Montréal ou dans des grandes villes au Québec, Laval, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau. Ils sont là, mais c'est un peu comme des ombres qu'on évite de croiser d'ailleurs. Évidemment, depuis quelque temps, il y a une espèce de prise de conscience, je dirais. Il y a eu aussi une émission Face à la rue avec Jean-Marie Lapointe qui vient régulièrement à notre émission. Il y a moi qui vous en parle aussi souvent depuis des années. Je me dis qu'à force d'en discuter puis de vous présenter des modèles inspirants de gens qui s'en sont sortis aussi, ben que vous allez être touchés au cœur puis que vous allez avoir envie aussi de donner peut-être parce qu'ils ont besoin d'aide. Puis encore ce matin, on apprenait que les refuges sont ensevelis de demandes d'aide, que le nombre d'itinérants est encore plus que jamais en hausse à Montréal. C'est extrêmement préoccupant. Il n'y a pas assez d'endroits pour qu'ils aillent se réfugier. Et je voulais qu'on reçoive là-dessus l'abbé Claude Paradis, qui est le prêtre des sans-abri, que j'ai rencontré il y a quelque temps et qui m'avait demandé avec sa candeur, puis j'ai pas pu lui dire non, parce qu'on peut pas lui dire non. Quelqu'un qui s'appelle l'abbé Paradis, on se dit, il est proche du bon Dieu. Alors même si je suis pas très croyante, même pas pantoute, je me dis, je prendrai pas de chance. Je me colle à l'abbé Paradis, ça devrait me donner un petit plus. Merci d'être là, Claude.
Merci à vous.
Et je rappelais donc à nos auditeurs que vous m'aviez demandé l'année dernière, la marraine de Notre-Dame de la rue, votre action bénévole.
Merci à vous.
Ça me fait grand plaisir si je peux aider. L'année dernière, on avait essayé un peu de rameuter les gens autour de la messe des itinérants qui va avoir lieu le 24 décembre. Toujours cette année encore.
Toujours cette année à 2h, en après-midi, à 14h, au métro Place d'Armes.
Voilà.
Alors, tous les gens qui veulent venir. L'année passée, on était à peu près 200 personnes. Alors, cette année, on entend autant de monde, sinon plus encore. Alors, c'est vraiment agréable. C'est une messe dehors.
Une messe dehors et qu'il fasse moins 10, moins 15, moins 20, vous êtes
là.
Tout le monde est là. Les itinérants, ils sont. Ils peuvent avoir également des boissons chaudes, un peu à manger et surtout la bonne parole. Votre parole est réconfortante.
C'est important, surtout à l'approche de Noël. Là, c'est encore plus difficile. Je sais bien que il n'y a pas un mois en particulier qui est plus facile qu'un autre, mais à la période des fêtes, c'est très dur.
Est-ce qu'on sait combien il y a d'itinérants à Montréal?
Ah, Seigneur, on ne sait plus. Il y en a tellement, ça arrive de partout maintenant. Les refuges débordent. J'ai même su ce matin que l'hôpital Royal Vic avait ouvert 80 lits parce que les refuges ne fournissent pas. Il y a tellement de monde. Comme moi, ce soir, là, je vais voir 150 personnes et plus. J'ai 150 cafés, j'ai 150 sacs d'épicerie, puis il m'en manque maintenant les jeudis soirs. Alors, on voit plus que 150 personnes.
Dans la rue, là.
Dans la rue. De tout âge, là, 14, 15 ans à 92 ans. Là, Mme Cécile, la plus âgée, elle a 92 ans, qui vient chercher son sac d'épicerie, qui fait tout le tour des refuges durant toute la semaine pour pouvoir s'alimenter, pouvoir se nourrir.
Puis elle est où, cette dame-là?
Elle reste dans un petit appartement de rien. Elle prend soin de sa sœur qui a 96 ans. Oh. Alors, on lui donne deux sacs d'épicerie, hein, parce que, bon, ils sont deux. Alors, ils font le tour des refuges durant toute la semaine.
Mais si elle ne s'occupe pas de ces dames-là, ils n'ont pas de suivi?
Non, pas beaucoup, non. Non.
Le manque de suivi, c'est un gros problème. On va revenir aux itinérants, bien sûr, mais je voulais vous présenter Nathalie Renaud, dont la fille a vécu dans la rue, justement. Merci d'être là, Nathalie.
Ça fait plaisir.
Je sais que c'est un sujet délicat pour vous parce que votre fille Catherine était toxicomane. Elle a eu des problèmes de santé mentale également. Elle a vécu dans la rue et malheureusement, elle est décédée il y a 4 mois seulement.
Exactement.
C'est donc encore tout frais pour vous. Mes condoléances.
Merci.
Et je pense que les auditeurs vont être touchés par votre témoignage parce que pour vous, c'est important de dire à quel point il y a un pas de suivi puis à quel point les gens qui sont dans la rue. L'abbé Paradis vient nous parler de deux vieilles dames, mais votre fille était jeune.
Oui, elle avait seulement 24 ans. Elle a commencé en situation d'itinérance, je vous dirais, à la fin 2016. Qu'est-ce qui l'a amenée à la rue? Parce qu'on ne le choisit pas d'aller à la rue puis de devenir itinérant. C'est vraiment les facteurs, les circonstances de vie. Donc, Catherine souffrait d'un mal de l'âme. De qu'est-ce qu'on suppose, parce que malheureusement, elle n'a jamais été diagnostiquée, étant donné qu'elle avait un problème de dépendance. Puis moi, ça m'intéresse.
À la drogue, là, faut dire. Exactement. Elle a commencé à quel âge, puis avec quoi exactement?
Elle a commencé le pot à l'âge de 18 ans, pendant à peu près une période de 2 ans et demi. Et après ça, la cocaïne et les drogues dures pour finir à l'héroïne, mais elle n'est pas décédée d'une surdose d'héroïne. Elle est décédée, je l'ai su cette semaine, là, d'une surdose de cocaïne et de méthadone.
Incroyable. Elle a été retrouvée à quel endroit?
Dans le fond, elle était avec son copain à Longueuil, puis est partie un soir sans donner de nouvelles. Elle s'est retrouvée à Montréal, puis elle a été retrouvée dans un logement au coin de la rue Saint-Hubert et Rosemont. C'est quelqu'un qui l'a hébergée durant la nuit parce qu'elle était dans un parc, puis était en situation vulnérable, pas d'argent, rien avec ses sacs de linge, puis... durant la nuit, lui dit qu'il a quitté dans la soirée, puis quand il est revenu, il l'a retrouvée morte.
Comment vous l'avez su?
C'est les policiers qui sont venus me l'annoncer au travail.
Vous aviez perdu contact avec votre fille pendant
ces... Non, jamais.
Non.
C'est ça qui est malheureux, parce que souvent, les itinérants ne donnent pas de contact à la famille. Mm-hmm. Y en a qui, des fois, peuvent les reconnaître à la télévision. Moi, Catherine... a toujours été proche de sa famille, de ses sœurs. Elle a 2 sœurs, son père, moi. Ses amis aussi, elle communiquait quand que c'était possible avec un téléphone par Messenger, elle communiquait avec eux. Sauf que son problème de santé et de dépendance faisait qu'elle s'éloignait volontairement mm-hmm. pour pas faire du mal à ceux qu'elle aime. Elle pensait mm-hmm. toujours à ceux qu'elle aime, mais en même temps, elle souffrait de cette solitude-là, puis de ne pas être entourée de ses proches. Mais à tous les jours, quelqu'un avait un téléphone ou quelque chose comme ça, ou même on allait la chercher au métro. Elle venait faire un tour à la maison, mais on n'était pas capable de la garder avec nous. Soit que c'est elle qui ne voulait pas, puis elle partait, ou sinon, pour nous autres aussi, c'était difficile de l'avoir dans cet état-là. Puis veut pas, elle nous drainait beaucoup d'énergie, parce que c'est pas facile pour la famille autour, là, une telle situation. Là.
Puis dans la vingtaine, c'est des adultes.
Exactement.
Il y a un soutien limité qu'on peut donner. On peut pas les attacher non plus.
Exactement.
Ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous regardez ça, ça fait seulement 4 mois. Est-ce que vous êtes encore en train de vous dire, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça?
Je vais vous dire que du côté de la famille, là, que ce soit le papa de Catherine ou moi, mm-hmm. Ses sœurs, ses tantes, on a fait tout ce qui était possible. Cogner à des portes, faire la démarche P38, emmener Catherine à l'hôpital quand elle nous le demandait de son propre gré. Parce
P38,
qu'elle
souffrait. C'est quoi?
C'est la démarche pour faire évaluer quelqu'un contre son gré pendant une période jusqu'à 72 heures. Mais dans les 2 fois que nous, on l'a fait, elle fut relâchée au bout de 48 heures.
Vous vous dites qu'il n'y a pas de suivi du tout.
Il n'y a pas de suivi parce que, étant donné que Catherine, elle avait un problème de dépendance de drogue, elle avait de la drogue dans le sang. Donc, à l'hôpital, à Louis H. Lafontaine, ils ne peuvent pas prendre en charge ces personnes-là. C'est des problèmes concomitants qu'on appelle. Donc, ce n'est pas possible pour eux de faire une évaluation psychiatrique quand la personne est intoxiquée. Fait que ils suggèrent aux patients d'aller en désintox, mais c'est toujours sur une base volontaire. Catherine, elle a essayé 3 fois sur une base volontaire, mais l'attente pour rentrer en désintox, des fois, c'est 3 semaines pour avoir une place disponible. Mais c'était rendu au point, au jour J, Catherine était dans la rue. On l'avait perdue, là. T'sais, c'est au moment où ce qu'elle était à l'hôpital qu'il fallait agir. C'est là qu'elle devait être prise en charge. Puis malheureusement, l'hôpital, elle, elle n'a pas fait de suivi à ce niveau-là. Moi, c'est ça que je déplore.
Mais est-ce qu'ils ont fait un autre suivi? Est-ce qu'ils ont, ils sont occupés
pas.
Des problèmes de santé
J'ai
mentale?
J'ai jamais su de quoi elle souffrait au niveau santé mentale.
Ah non, mais de toute façon, comme mère, vous n'avez pas le droit, là. C'est parce que maintenant, à partir de 14 ans, on le sait, là. C'est comme, si vous le savez, c'est parce que vous êtes bien chanceuse, mais sinon, on ne vous le dit pas, là.
À moins que Catherine nous l'aurait
à
dit.
À moins que votre fille vous le dise.
Mais ça n'a pas été possible. Dans le rapport à date que le coroner me dit, dans son dossier médical, il n'y a pas de diagnostic. Mais je veux dire, est-ce que c'est une raison pour autant de ne pas soigner ma fille?
Oui, c'est incroyable. Abbé Paradis vous envoyait régulièrement des histoires comme ça.
Ben, je peux parler personnellement. Hein. J'ai fait deux fois. J'étais deux fois en psychiatrie, tentative de suicide. Quelques jours après, on me disait, ben là, vous avez votre congé, là, vous vous débrouillez. Là, je disais, ben, c'est parce que vous comprenez pas, là. Si je ressors dehors, c'est dangereux pour moi.
Ouais.
Je vais consommer, puis je peux passer à l'acte. Alors, les deux fois, j'ai fait quelques jours, deux, trois jours, une journée. Puis on m'a dit, ben, vous avez votre congé, vous êtes correct. Mais on n'est pas correct.
Ouais.
Moi, j'étais vraiment pas prêt à la sortie, là.
Ouais. Et c'est pour ça que vous, d'ailleurs, vous étiez dans la rue aussi,
oui, c'est
éventuellement.
Oui, c'est ça, exactement ça, oui. Exactement.
Il y en a beaucoup des gens qui ont ces problématiques santé mentale, drogue, consommation de toutes sortes. Là, mais on a vu la crise du fentanyl cette année, en plus, qui s'est rajoutée.
De plus en plus, une problématique en santé mentale, c'est aberrant. Ben, premièrement, plusieurs ont fragiles au niveau de la santé mentale.
Mm.
Et en consommant différentes drogues, ça ouvre, justement, ça peut ouvrir à différentes formes de santé mentale. La drogue les emmène à ça aussi, là.
Mm.
Que ce soit différentes formes. Alors, c'est quand même dangereux, là. C'est plus comme c'était avant. Moi, être parent, j'aurais très peur, moi aussi, là. Je dois vous dire, là, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant.
La légalisation de la marijuana, vous en avez parlé?
Oui, bien sûr. Là, on voit des jeunes sur Sainte-Catherine là, qui sont en train de consommer. On en voit beaucoup, là.
Plus qu'avant, vous dites?
Oh, plus qu'avant, oui.
Parce que bien des gens disent, bah, ça n'a rien changé.
Ah non, ça a changé.
Vous l'avez vu, là, depuis le 17 octobre?
Oui, j'en vois plus, oui.
Il y a trop de choses qui sont banalisées. Ouais. Beaucoup de choses sont banalisées. T'sais, le pot, on le banalise, mais... Il y a des personnes chez qui ça ne fera pas d'effet secondaire, que ça ne va pas les nuire. Mais si on regarde le cas de Catherine, elle a fait sa première psychose avec le pot, puis ça l'a amenée à faire une tentative de suicide.
Mm.
Puis elle s'est mutilée aussi, elle s'est rasée la tête. Puis je veux dire, je me dis, ça prend quoi au juste aux médecins psychiatres, et je parle de la majorité, là. Ça leur prend quoi, au juste, pour comprendre que cette personne-là a le besoin de soins? Que ce soit contre son gré ou non, il faut agir. Moi, de qu'est-ce que je vois dans l'histoire de ma fille, c'est qu'elle a été laissée à elle-même, elle n'a pas été prise en charge, et elle en est morte aujourd'hui. Si elle aurait été prise en charge avec tout ce qu'il y avait dans son dossier, puis que le psychiatre l'aurait... Si elle n'était pas en mesure de le faire à l'hôpital... Elle avait le plein pouvoir et le devoir de soigner ma fille. C'est dans le code de déontologie des médecins, là.
Mm.
Puis ça n'a pas été fait. Fait que moi, je me pose la question aujourd'hui, un coup qu'elle est morte, j'ai tellement appris de choses, tellement de choses sont dénoncées par les psychiatres ou les directions en santé mentale. Je me dis, ben pourquoi que ma fille, elle a fini comme ça?
Pourquoi on ne l'a pas aidée?
Pourquoi on ne l'a pas aidée?
Mm. On va aller à la pause là-dessus. Je suis sûre que votre témoignage et celui de l'abbé Paradis, ça va chercher beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de parents qui vivent ça. Puis il y en a beaucoup qui souhaitent aussi que leur enfant se retrouve pas dans la rue et certainement pas ouvrir la porte, puis que ce soit la police qui vous annonce le décès de votre enfant. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui peut même imaginer la douleur que vous avez dû vivre, Nathalie Renaud. On va s'arrêter ici. Si vous avez dans votre famille des gens là, justement qui sont en situation de précarité mentale ou autre, qui si vous avez déjà été dans la rue aussi, puis si vous êtes des fois proche de l'être, vous savez, on le dit tout le temps, hein? On se le disait il n'y a pas longtemps, Claude, qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là.
Personne
du tout. 514-790-9850, 1-866-790-9850 pour nous dire si ça vous touche et de quelle façon ce qui se passe avec les itinérants. On va aller à la pause, tiens, avec, je voulais vous les faire entendre, c'est un groupe montréalais, il s'appelle The Damned Truth. Ils vont être en tournée un peu partout au Québec en janvier. Ils viennent de faire un vidéoclip que je vous conseille d'aller voir sur YouTube sur leur nouvelle chanson qui s'appelle Devilish Folk. Et c'est vraiment pour aider une cause que connaît bien l'abbé Paradis, celle de Dans la rue. Le bon Dieu dans la rue, c'était le père Pop. Aujourd'hui, ça s'appelle Dans la rue. Ils ont fait une vidéo qui montre un peu ce que c'est qu'être un jeune squeegee dans les rues de Montréal. Voici un extrait.
I'm not injecting anymore. I still drink. That's basically where my life is at now. Is that a really big...
On a beaucoup de bons témoignages de gens qui nous appellent, qui sont touchés par le témoignage de Nathalie Renaud, dont la fille Catherine est décédée il y a 4 mois après avoir été dans la rue, toxicomane, problème de santé mentale non suivi. L'abbé Claude Paradis est avec moi, le prêtre des sans-abri qui va célébrer cette messe lundi 24 décembre pour les itinérants. Martin, merci de nous appeler. Vous, votre père a eu des gros problèmes de santé mentale. Votre fils aussi, vous êtes inquiet. Est-ce que votre fils est dans la rue en ce moment, Martin?
Non, non, présentement, heureusement, là, avec beaucoup d'efforts. Je parle d'efforts de l'âge de 12 ans à 18 ans.
Mm-hmm.
Pendant 6 ans, là, j'ai pas lâché là, justement toutes les ressources possibles. Puis présentement, mon fils va bien. Après beaucoup, beaucoup d'efforts, là, il a été à 12 ans, là, les gangs de rue avaient déjà la main dessus. Il avait les 26-27 pilules, le cœur est en train de sortir de la poitrine. Puis si j'avais pas mis les efforts, c'est sûr qu'en ce moment, il ne serait plus là. C'est sûr. Donc,
Ça vient vous chercher, les itinérants, le fait de qu'il y ait des jeunes de 14 ans qui soient laissés à eux-mêmes dans la rue.
Ah, c'est incroyable, non, absolument. Ça prend plus parce qu'un jeune à cet âge-là, il sait pas où aller, c'est bien certain là. Moi, avec beaucoup d'efforts, j'ai été aussi toxicomane. Mm-hmm. Et puis j'ai arrêté assez jeune, heureusement, à 25 ans. Et j'ai descendu assez rapide là, dans la drogue, tout ça. Ça me faisait penser un peu à l'histoire de la jeune femme, là.
Ouais, de Catherine.
Quand j'ai eu un fusil sur le bord de la tempe, le lendemain, j'étais en thérapie.
Ouais. Votre père, je pense, a été dans la rue, me dit-on.
Oui, mon père, lui, il se ramassait souvent dans la rue, dans des crises.
Ouais.
Quand il était tout nu, des enfants de même là, qui se prenaient pour Jésus, il le ramassait, il l'amenait à l'hôpital.
Il était schizophrène?
Oui, il y avait de la schizophrénie et ce qui paraîtrait aussi bipolaire de type 1 là, avec des hallucinations et tout ça. Ah. Fait que puis une autre personne me dit que ça se peut pas qu'il y ait les deux maladies, mais finalement peu importe c'était quoi, c'était pas drôle là.
Ouais, merci.
Et quand on a découvert le lithium là, dans les années 80, ça donnait un bon coup de main.
Ouais.
Mais il y avait beaucoup, 90 je pense plutôt, il y avait beaucoup de dommages de fait là, dans les années. Puis il est enfermé souvent. Moi, à 4-5 ans, j'allais le voir à travers la vitre là, à l'hôpital. Ça a été très souffrant, un gros chemin difficile. Mais là, mon fils va bien, ma fille aussi, parce qu'elle a quelques difficultés également là, avec la santé mentale. Mais faut tenir ça serré. Quand je dis, je veux juste finir, parce que vous m'avez dit merci, là, je veux juste finir en disant que c'est très, très, très difficile d'avoir des soins. Mon gars, là, ça m'a pris la cour, ça m'a pris la juge pour qu'elle oblige un pédopsychiatre d'avoir un diagnostic. Donc, ça donne une idée, là, j'ai été jusque-là.
Wow. Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage, Martin. Là. Merci bien. J'aimerais que vous restiez en onde puis que vous donniez à Isabelle Lorme, ma recherchiste, vos coordonnées, Martin. Pascal est avec nous. Pascal, qui a déjà été itinérant, qui est aujourd'hui bénévole à son tour. Merci de nous appeler. Pascal, on vous écoute.
Ben, bonjour à vous. Ça me fait grand plaisir de vous parler. C'était plus fort que moi en entendant la maman tantôt.
Ouais.
Moi, je suis bénévole aussi à Telle Aide. Et puis, ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que la santé mentale est omniprésente. On le sait tous. Par contre, il y a des outils. Et ce que j'ai le goût de dire aux gens aujourd'hui, c'est que à Telle Aide, c'est un organisme où il y a de l'écoute téléphonique anonyme et confidentielle et où la pression, on règle pas tout, mais la simplicité de l'écoute fait en sorte que la pression diminue. Et à partir de là, les gens commencent à avoir un petit peu de solutions. Et c'est un peu ça que j'ai le goût de dire aujourd'hui. C'est comme un outil qui, souvent, est banalisé.
Ouais. Et vous, parlez-moi, quand vous étiez itinérant vous-même, Pascal, qu'est-ce qui vous a amené là?
Moi, j'étais épisodique.
Ouais.
À l'âge de 18-19 ans, moi, j'ai une carrière de football. Et je dois vous dire que j'ai goûté à ça, mais aujourd'hui, je m'implique tellement à ce niveau-là parce que personne n'est à l'abri.
Ouais.
Et j'ai travaillé 17 ans avec les jeunes dans les écoles. Aujourd'hui, je travaille encore dans le domaine de la relation d'aide parce que c'est quelque chose qui est primordial et tout le monde a une santé mentale et tout le monde doit l'entretenir. Et c'est pas tout le monde qui a les mêmes habilités à développer tout ça. Et il faut avoir des solutions. Et c'est un peu ça aujourd'hui l'objectif de mon appel pour vous dire qu'à TelAide, c'est une ligne téléphonique qui aide justement les gens juste à baisser un peu la pression, si ce n'est que par l'écoute active.
Oui. Ben merci beaucoup, Pascal. On va prendre votre numéro à vous aussi. Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour, Guillaume. Oui, j'ai croisé l'abbé Paradis. Je connais les Trinitaires, la Maison du Père, mais je l'ai croisé dans une fraternité. Puis, on s'était toujours dit depuis un certain temps que j'allais faire du bénévolat. Ça me ferait plaisir, abbé Paradis, de vous aider parce que c'est innommable ce que je vois dans les rues de Montréal. Ça se peut que je sois éventuellement conférencier, on ne dira pas trop fort, mais pour la ville ou la SPDM.
Parce que vous êtes un ancien itinérant, Guillaume?
Oui, c'est ça.
Okay.
Puis c'est après un burn-out comme attaché politique dans certaines conférences, dans certains partis politiques que je n'aimerais pas, pour lesquels je veux revenir, mais on nous traite comme des...
Vous êtes brûlé. Vous êtes brûlé les ailes un peu.
Ouais, je veux pas développer de rancœur, mais le traitement que j'avais.
Mais les burn-out, l'épuisement mental, professionnel, je veux dire, l'anxiété. Ah oui, on en a beaucoup parlé cette année, puis heureusement.
Ouais,
exact. Ouais. Merci, Guillaume. Ben, je retiens que Guillaume veut faire du bénévolat, puis ça conclut bien notre sujet parce que Nathalie Renaud, ça a été un peu comme moi, finalement, quand on vous a à votre contact, Claude. L'abbé Paradis est tellement convaincant, Nathalie, que on a envie de l'aider. On a envie d'aider Notre-Dame de la Rue, qui est son organisme, qui est rattaché d'ailleurs à l'archevêché de Montréal. Oui. Tu sais, des fois, on dit la religion au Québec, on ne veut plus rien savoir, mais moi, je rappelle régulièrement aux auditeurs que c'est quand même l'Église qui vous aide beaucoup aussi.
Oui.
Puis il y a des bonnes, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Dans l'Église, il y en a des très, très bonnes. Hein?
Oui.
Faut quand même le dire.
Oui.
Donc, Abbé Paradis, on rappelle, le 24 décembre, c'est lundi, la messe des itinérants, c'est à quelle heure pour les gens qui veulent y aller?
À 2h en après-midi, et c'est au métro Place d'Armes, les à l'extérieur.
Voilà, métro Place d'Armes à 14h lundi. Les gens qui veulent vous aider, là, il y a des gens qui me disent, on peut-tu donner des sacs d'épicerie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voulez-vous, préférez-vous des dons en argent? Qu'est-ce que vous voulez?
Ce qui est le plus facile pour les gens.
Ce que le monde a. Il n'est pas regardant.
Ce que les gens donnent.
C'est des vêtements chauds. Toutes sortes des bottes. Si vous avez des vêtements,
vêtements
beaucoup
chauds,
pour hommes. Mais là, aujourd'hui, on le sait, pour femmes également. On a beaucoup parlé des hommes là, jusqu'à maintenant. Évidemment, des jeunes femmes. Mais il y a des refuges pour femmes également. On pense à la maison chez Doris, mais il y en a d'autres. Où on manque cruellement de place. Nathalie va faire du bénévolat également avec l'abbé Paradis.
Oui, je vais aller à la messe, naturellement. Mais j'ai déjà dit que durant l'année, à quelques reprises, je vais me présenter soit le mardi ou le jeudi soir pour pouvoir aller dans la rue avec l'abbé Paradis pour remettre des repas. Je le fais parce que ça m'interpelle, puis je le fais aussi parce que, je veux dire, mon vécu avec Catherine, je veux comprendre des choses. Puis pour les comprendre, c'est dans la rue que je vais les comprendre.
Oui. Merci, Nathalie. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je vous serre dans mes bras. C'est très touchant, votre témoignage. Puis, comme parents d'enfants, d'ados, on est tous interpellés par ce que vous avez vécu. Merci beaucoup. Merci, Claude Paradis.
Ben, bienvenue.
Merci à vous.
Bienvenue,
vraiment.
Bienvenue.
Continuez. Continuez de faire du bien dans la rue. Il y en a beaucoup besoin. On va s'arrêter ici. Tout de suite après, on va parler d'autre chose complètement. Accord mai 20. On finit avec cette note-là, quand même. À tout de suite, tout le monde.